place publique.
Les esprits ne sont pas prêts de se calmer dans le canton de Neuchâtel. Grève hier dans l'enseignement, demain manifestation contre l'austérité. De son côté, le Conseil d'État en appelle à la responsabilité, craignant par-dessus tout des blocages. Notre débat dans un instant avec deux députés neuchâtelois. La pauvreté touche un demi-million de personnes en Suisse, sans compter tous ceux qui sont menacés de tomber dans la précarité. Le directeur de Caritas Jura, Jean-Noël Maillard, nous rejoint tout à l'heure pour évoquer les moyens de lutter contre le phénomène et surtout les moyens de le prévenir. Prévention toujours pour la dernière partie de l'émission, mais cette fois-ci en lien avec la radicalisation et l'extrémisme religieux. La ville de Bienne prend le problème à bras-le-corps, vous allez l'entendre, et on verra avec notre invité quelles mesures sont à l'étude. Des sujets sérieux, hein, vous l'entendez, mais qui ne vont pas nous empêcher de faire une parenthèse humoristique grâce à la participation de Jérôme Moutet du côté de 7h moins le quart.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Bonsoir à tous. La colère gronde dans le canton de Neuchâtel qui s'apprête à subir une sévère cure d'austérité. Hier, les enseignants se mettaient à nouveau en grève pour la troisième fois cet automne. Ils contestent la nouvelle grille salariale prévue dès l'année prochaine. De leur côté, les organisations syndicales et les partis de gauche lancent un appel général à manifester demain à la Chaux-de-Fonds contre les mesures d'austérité qui vont toucher la population neuchâteloise. Le Conseil d'État, lui, craint par-dessus tout les blocages à l'heure de faire passer des réformes jugées cruciales pour l'avenir du canton. L'avenir du canton de Neuchâtel, d'ailleurs, est-il bloqué? On en débat avec la députée neuchâteloise et présidente du Parti Socialiste, Corinne Bollet-Mercier. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Et avec nous aussi, Olivier Hausner, député neuchâtelois PLR. Bonsoir.
Bonsoir.
Corinne Bollet-Mercier, à l'heure où les finances vont mal, 70 millions annoncés au prochain budget, 70 millions de déficit, vous appelez à manifester, votre parti appelle à manifester contre la politique d'austérité. Mais au gouvernement, vous êtes majoritaire. Est-ce que ce n'est pas paradoxal et d'une certaine manière irresponsable, pour prendre les termes de ce gouvernement ?
Non, écoutez, je pense qu'un gouvernement, notre Conseil d'État, est dans une logique d'exécutif. Effectivement, ce déficit inquiète tout le monde. Il inquiète les partis politiques, la population neuchâteloise. Le Conseil d'État ne peut rester les bras ballants et appelle effectivement à unir les forces. Et puis, unir les forces, ça veut dire que chaque parti politique définit une ligne rouge. Et cette ligne rouge, aujourd'hui, par le Parti Socialiste, elle a été jugée comme allant trop loin dans les propositions du Conseil d'État. Donc, pour nous, Parti Socialiste, on doit rappeler que la mission fondamentale de l'État, c'est d'assurer la cohésion et la justice sociale. Et avec les mesures qui s'annoncent, eh ben cette cohésion sociale, elle risque d'être mise à mal.
Mais qu'est-ce que vous attendez au juste de cette mobilisation, à part peut-être risquer de déstabiliser et de décrédibiliser vos conseillers d'État? On le sent bien, Monica Merefti est plus prompte, par exemple, à faire des concessions que ses collègues du gouvernement.
Mais d'abord, cette manifestation, c'est un appel de toutes les forces de gauche pour dire que ces mesures d'austérité, elles sont dangereuses pour la cohésion sociale. Et je pense que le Conseil d'État, aujourd'hui, il y a un point, vous l'avez rappelé, cette grève des enseignants, elle est là depuis, le mécontentement est présent dans le monde de l'enseignement, la charge de travail devient de plus en plus lourde, et puis il y a une étude qui a été faite par la commission, par BAC Basel, donc c'est un institut qui a fait une étude sur les finances de l'État, et cette étude a montré que les charges de personnel étaient inférieures dans le niveau de l'enseignement à la moyenne suisse et que le taux d'encadrement était très élevé dans les classes neuchâteloises. Donc je pense qu'aujourd'hui, la revendication qui a été faite par les syndicats de l'enseignement de dire on veut avoir des meilleures conditions de travail, le Conseil d'État doit entendre cet appel.
Olivier Hausner, tout le monde est d'accord pour dire qu'une formation de qualité est indispensable pour assurer la cohésion sociale d'une région, d'un canton, l'avenir même du canton. Est-ce qu'à force de mettre les enseignants sous pression, puisque c'est d'eux dont on parle, notamment, le canton de Neuchâtel ne risque pas de prétériter la relève? Est-ce que la ligne rouge n'a pas été franchie?
Bah écoutez, la ligne rouge, elle a surtout été émise par le Parti Socialiste. Puis en fait, on est un petit peu, c'est le monde à l'envers aujourd'hui. Trois partis dans un gouvernemental qui a trois ministres au gouvernement qui en appellent à manifester demain puis à soutenir les grèves des enseignants. C'est un petit peu joué au pyromane pompier. Puis à force de vouloir continuer à donner tout ce que l'on n'a pas et refuser toute réforme et assainissement financier et continuer à prôner l'augmentation des impôts, je crois que les caisses de notre canton peut bien être vide avec une telle politique. En ce qui concerne les enseignants, je crois qu'il faut différencier un appel à une manifestation générale et les grèves des enseignants. Le Parti libéral radical soutient la grille salariale du Conseil d'État. Je crois que c'était nécessaire de revoir cette grille. Par contre, le Parti libéral radical, tout comme d'ailleurs le gouvernement, est prêt à entrer en matière par rapport à, je dirais, la valorisation et à revoir les conditions de travail dans le milieu de l'enseignement.
Corinne Bollet-Mercier, il y a un pas qui est fait par rapport aux conditions d'enseignement. Par contre, la grille salariale, pas touche, elle ralentira la progression salariale pour certains enseignants. Est-ce que c'est une concession qu'il ne faudrait pas faire vu le contexte actuel ?
Mais écoutez, ça, je pense que c'est un travail entre le syndicat et les conseils d'État. Le conseil d'État, donc, c'est pas au parti de décider si oui ou non la grille salariale doit être appliquée. Par contre, on aimerait plus de concertation et plus de négociation entre le conseil d'État et les syndicats, ce qui aujourd'hui fait visiblement encore défaut, peut-être, je pourrais dire, parfois de part et d'autre. Et je suis ravie d'entendre que le député Housner, avec visiblement son parti, soit d'accord d'entrer en matière sur les conditions de travail, parce que c'est une chose de le dire, mais c'est une chose d'après de voter des moyens pour l'école. Et donc, on verra au budget ou à d'autres moments si le Parti radical libéral suivra cette idée.
Vu les tensions qui se font jour dans la rue, vu les tensions aussi coutumières à l'heure de voter les budgets, est-ce que vous allez pouvoir vous entendre dans 10 jours au Grand Conseil quand il faudra justement débattre et voter ?
Écoutez, le Parti libéral radical prône depuis de nombreuses années un assainissement des finances, une réforme de l'État. Actuellement, si le canton va mal, on ne peut pas dire que c'est la faute unique du Parti socialiste, mais par contre, on peut dire que si le canton ne se redresse pas, c'est à cause de lui. Parce qu'en fait, les propositions qui ont été faites depuis plusieurs années maintenant, il y a toujours eu des majorités de circonstances qui ont fait que ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas au bon endroit. Et si aujourd'hui nous avions entrepris les réformes nécessaires il y a 4 à 5 ans, les gens n'iraient pas dans la rue aujourd'hui, car nous aurions une marge de manœuvre qui pourrait répondre à ces gens qui manifestent par rapport à des conditions de travail et puis bien sûr à une certaine austérité.
Du ressentiment qui n'aide pas à la sérénité des débats, Corinne Bollet-Mercier.
Mais enfin, M. Housner, vous ne pouvez pas dire ça. C'est vous qui étiez aux affaires pendant des années dans le canton. Donc, de dire aujourd'hui que le Parti socialiste est responsable des finances cantonales, c'est une absurdité. C'est une absurdité complète. Par contre, le Conseil d'État, ce qu'il a fait depuis 4 ans, avec un Parlement à droite, donc un Conseil d'État à gauche avec un Parlement à droite, souvent mal pris. Et puis, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dû mettre en place des mesures d'austérité que vous avez votées avec cette motion des 160 millions. Donc, il y a déjà presque 160 millions aujourd'hui qui ont été diminués dans les charges de l'État. C'est le Parti libéral radical LUDC qui ont demandé ça. Je pense qu'en 4 ans, il n'y a aucun autre gouvernement qui a subi un choc pareil. En plus, ajoutez à ça la diminution de la RPP, 60 millions sur 2 ans.
La péréquation financière.
Voilà. Et puis aujourd'hui, le choc conjoncturel qui fait qu'effectivement l'imposition des personnes morales dégringole à raison de près de 30 millions, eh bien voilà, on est face à un déficit conjoncturel, face à une situation conjoncturelle et non pas structurelle. Moi, je n'ai jamais entendu le Parti libéral radical proposer des mesures structurelles. Tout ce que vous proposez, c'est des coupes. C'est des coupes qui... modifie en rien, je dirais, les difficultés aujourd'hui du canton de Neuchâtel. Et on le sait, la difficulté, c'est la structure socio-démographique de la population neuchâteloise.
Olivier Housner,
Madame Bollet-Mercier oublie que toutes les grandes décisions qui sont à prendre et qui ont de réelles économies dans ce canton doivent être prises aux 3/5 des voix du Grand Conseil. Donc ce n'est plus après des majorités de gens qui sont au pouvoir ou pas. Une chose est sûre, nous n'avons pas de majorité au gouvernement.
Vous allez devoir faire des concessions.
Mais tout le monde devra faire des concessions, puis de toute façon, les concessions seront encore insuffisantes. Par contre, nous avons pris beaucoup, beaucoup de retard. Les autres cantons nous regardent, et puis surtout, si on ne fait rien, les gens vont partir. Il n'y aura bientôt plus personne pour payer le social. On a rendu notre société socio-dépendante à un tel point que bientôt, les gens ne pourront plus simplement faire face à des engagements avec l'argent que nous n'avons pas.
Olivier Housner, juste une question par rapport à la fiscalité des entreprises qui est quand même pointée du doigt, notamment... en vue de la manifestation de demain, on fait des cadeaux aux entreprises et on met la pression sur les bas revenus en diminuant des prestations sociales. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'injustice que vous pouvez comprendre ?
Écoutez, nous sommes mis en compétition et puis actuellement, plutôt la position des entreprises avec la réforme que nous avons menée ces dernières années a porté ses fruits. Simplement, au lieu de thésauriser un petit peu ces surplus d'impôts des personnes morales, nous avons justifié des charges supplémentaires. C'est ça qui ne joue pas dans le canton. Dès qu'on a un million, on le dépense. Et puis, je ne pense pas que c'est une attitude pour avoir des résultats, je dirais, satisfaisants au compte et puis pouvoir dégager surtout des moyens pour des investissements futurs, car ce canton n'investit plus.
Alors, sur ce dernier point, je rejoins M. Housner. Ce canton n'investit plus. Et donc, je pense que pour les budgets à venir, déroger à ce qu'on appelle le frein à l'endettement et puis le frein aux dépenses, il me semble que c'est la seule voie possible aujourd'hui pour le canton de Neuchâtel pour affronter les difficultés. Mais j'aimerais rappeler un point. Il y a eu un salaire minimum qui a été accepté par la population neuchâteloise, qui a été accepté par le Grand Conseil et qui aujourd'hui est bloqué au tribunal fédéral. Un salaire minimum qui permettrait certainement à beaucoup de personnes de sortir de l'aide sociale. Je rappelle qu'il y a un tiers des personnes qui touchent l'aide sociale aujourd'hui et qui travaillent à plein temps, mais qui n'ont pas assez de revenus pour vivre. Et donc, ce salaire minimum, c'est une réponse. Mais aujourd'hui, c'est bloqué. Et je rappelle aussi que c'est un membre PLR qui a lancé, qui a fait un recours contre ce salaire minimum.
Le débat n'est pas clos, mais il se clôt pour Place Publique. Peut-être un minimo de la fin pour vous, Olivier Housner.
Ben écoutez, les temps vont être durs et puis les fronts sont assez prononcés, mais je ne désespère pas quand même de voir ce canton un jour sortir de sa crise. Mais pour ça, il faudra beaucoup travailler puis que les mentalités changent.
Olivier Housner, Corinne Bollet-Mercier, merci infiniment d'avoir été dans Place Publique pour ouvrir le débat qui ne fait que débuter puisque les débats du budget ont lieu dans 10 jours. Bonne soirée à vous.
Très bien,
bonne soirée, merci beaucoup.
Et il est temps de retrouver Marie-Lise Saillard pour les principaux titres de la journée.
Le tribunal de Moutier prononce l'internement en milieu fermé pour l'homme qui avait semé la panique et provoqué plusieurs accidents sur les routes entre Tavannes et Courandelin en octobre 2015. L'accusé souffrant de schizophrénie paranoïde chronique ne pourra donc pas suivre un traitement ambulatoire dans l'immédiat. La cour valide ainsi la mesure préconisée par l'expert psychiatre qui a analysé le dossier, comme commandé par le ministère public. Verdict rendu cet après-midi. Les finances chaudefonnières restent dans le rouge vif. Le budget 2017 prévoit un déficit de plus de 16 millions de francs. Le conseil communal avait annoncé fin octobre de nouvelles mesures d'économie et une nouvelle hausse d'impôts. Les autorités proposent également de puiser dans la réserve de politique conjoncturelle pour réduire le déficit à 5 300 000 francs. Le conseil général se penche sur ce budget lors de sa séance du 13 décembre. Opération sauvetage pour La Grange. Le cinéma situé à Delémont en sursis veut continuer de vivre. Un groupe de soutien de 13 personnes a été créé il y a quelques mois. Il a notamment lancé un appel aux dons aux 600 membres de la coopérative. Un sondage a également été réalisé. La très nette majorité est favorable au maintien d'un cinéma dans la vieille ville de la capitale jurassienne. 15 km ont été rénovés sur les routes cantonales du Jura cette année. Ces travaux réalisés dans les trois districts du canton auront coûté 6 millions de francs. Le nouveau système suisse d'information relatif à l'admission à la circulation routière coûtera 42 millions de francs au lieu de 8 millions prévus au départ. Le système, qui devait d'abord entrer en service en 2014, sera finalement opérationnel au printemps 2018. Il doit gérer de manière centralisée des données sur l'immatriculation des véhicules, sur l'admission des conducteurs et sur les mesures administratives. Un suspect a été identifié après l'assassinat d'une aide-soignante hier soir dans une maison de retraite pour religieux dans le sud de la France. L'homme de 47 ans a servi dans l'armée. Les enquêteurs suivent une piste locale. La compagnie aérienne Lufthansa a fait une nouvelle proposition salariale à ses pilotes qui sont actuellement en grève. Une augmentation de 4,4%, un versement unique équivalent à 1,8 fois le salaire mensuel, plus de nouvelles embauches. En attendant, Lufthansa a vécu aujourd'hui son troisième jour de grève. Plus de 800 vols ont été annulés. Côté météo, les nuages très présents ce soir pourraient donner quelques gouttes durant la nuit. Nuages encore demain matin, quelques brèves éclaircies l'après-midi, le tout accompagné de températures plutôt douces pour la saison avec des maximales comprises entre 7 et 9 degrés.
Place publique. La pauvreté est une réalité qui touche plus d'un demi-million de personnes en Suisse. plus d'un demi-million. C'est donc plus de 7% de la population qui est concernée. Une conférence nationale sur ce thème s'est tenue cette semaine à Bienne. Plusieurs centaines de participants, dont le conseiller fédéral Alain Berset, ils ont débattu des moyens pour lutter contre ce phénomène et surtout pour le prévenir. Avec nous pour en parler, le directeur de Caritas Jura, Jean-Noël Maillard. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors c'est à ne plus rien y comprendre. On lisait il y a quelques jours dans la presse que côté porte-monnaie, la Suisse allait plutôt bien. C'était même le pays le plus fortuné du monde. Une étude de Crédit Suisse révèle que la richesse privée par habitant s'élève à plus de 560 000 francs. Et pourtant, on vient de le dire, 500 000 de personnes vivent dans la pauvreté en Suisse. Comment vous l'expliquez ?
Ah ben, c'est vite vu, c'est les écarts qui ont grandi. Il y a plus de millionnaires que de gens à l'aide sociale. Donc si on regarde le nombre de millionnaires, on dit la Suisse va très bien. Puis si on regarde le nombre de personnes à l'aide sociale qui augmente, on dit effectivement il y a un problème. C'est la répartition de la richesse qui pose problème aujourd'hui.
Et comment ça se fait que la répartition pose problème dans un pays comme la Suisse, qui est pourtant un pays pluraliste, avec des partis qui défendent aussi des intérêts sociaux ?
Oui, je pense qu'on n'a pas toujours conscience quand on prend certaines décisions, même si nous, on essaye de sensibiliser les décisions, les impacts qu'elles auront à moyen terme sur les personnes pauvres. Je prends l'exemple de... J'écoutais le débat avec vous avant sur les finances publiques neuchâteloises. On comprend bien le champ de tension qu'il y a. Et là, il n'y a pas de recette facile. Mais en même temps, si on va déployer un certain nombre de mesures d'économie, il faut être conscient que les conséquences, elles auront que dans quelques années, ou même dans quelques mois, il y a des Neuchâtelois qui auront encore plus de mal à joindre les deux bouts et qui vont aller à l'aide sociale. Ça va augmenter les dépenses d'aide sociale et on va dire, mais maintenant on aura le même gâteau, mais il faut que les parts soient plus petites. Donc ces personnes-là qui n'ont rien demandé se retrouvent quand même à dire, ben vous ferez avec moi parce que l'effort doit être collectif. Et en même temps, pendant ce temps-là, il y a d'autres personnes qui peuvent bénéficier de ces mesures. On parlait de l'impôt sur les entreprises qui vont accroître les revenus de certaines personnes et de l'économie en général, mais aujourd'hui la difficulté qu'on a aussi, c'est quand l'économie repart, le personnel dont elle a besoin ne correspond plus aux personnels qui sont éloignés du marché du travail depuis longtemps, notamment pour des questions de formation. Donc on voit bien que les gens à l'aide sociale, c'est des gens qui pour la plupart n'ont pas de formation, des formations qui sont plus adaptées aux besoins du marché.
Pour la Suisse, ça veut dire quoi être pauvre ? Il y a plusieurs seuils possibles dont on parle selon le revenu. 2000 francs pour une personne vivant seule, 4000 francs pour un couple avec enfant. À partir de quand on est pauvre ?
Alors, il y a un vrai débat là-dessus. Hein. Je peux faire le détail financier au franc près. La Confédération, elle a changé son seuil il y a 3 ans. Puis tout à coup, les statistiques, elles ne sont plus lisibles parce qu'on a dit, ah ben, c'est plus ce montant-là. Alors, on essaie d'avoir un seuil de pauvreté pour quand même faire des statistiques. Mais ce qu'on peut se rendre compte, c'est que c'est déjà quelque chose d'un peu relatif. Hein. Je dirais être pauvre en Suisse, c'est quand même pas les mêmes conditions qu'être pauvre au Sud-Soudan. Mais au niveau de la Suisse, il y a aussi la question de savoir, est-ce qu'on parle de précarité financière ou des conséquences de cette précarité du point de vue relationnel, accès à la vie culturelle ou pas ? Qu'est-ce qui se passe autour de ça ? Donc il y a aussi une forme de subjectivité pour les personnes, je m'explique. Je peux voir une personne et considérer que statistiquement, elle est pauvre. Et lui parler comme une personne pauvre. Et elle peut très bien ne pas se sentir pauvre dans sa situation. Inversement, il y a des gens qui statistiquement ne sont pas pauvres, et quand vous allez discuter avec eux, ils se sentent vraiment en situation de précarité. Donc aujourd'hui, on a des chiffres, parce qu'il faut bien avoir un indicateur pour pouvoir causer, puis voir l'évolution. Mais aujourd'hui, c'est les gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts.
Dans le Jura, il y a un indicateur hein, dont on a entendu parler cette semaine, c'est les prestations à l'aide sociale qui augmentent, les dépenses de l'État jurassien pour l'aide sociale augmentent, le nombre de cas augmente aussi. Ça, c'est un signe aussi que la pauvreté existe aussi dans le Jura comme ailleurs.
Ah oui, elle existe bien comme ailleurs. On était pendant longtemps en dessous de la moyenne suisse et puis depuis 2-3 ans, on rattrape notre retard, hélas, et on va bientôt arriver au niveau de la moyenne. Mais ça s'explique aussi dans le canton du Jura, c'est les éléments dont je parlais avant. On a modifié la loi sur l'assurance chômage, les programmes d'occupation ne reconstituent plus de droit à l'assurance chômage. Donc les gens, ils sont transférés de cette assurance chômage qui était nationale à l'aide sociale qui est cantonale. On a restreint, pour plein de bonnes raisons, l'accès à l'assurance invalidité. Les gens qui n'ont pas droit à l'assurance invalidité, ils émargent sur les cantons. Et maintenant, le canton du Jura, ben, il constate bien que ce qui est annoncé, ça lui arrive. Donc il y a plus de gens qui arrivent et en même temps, il y a moins de gens qui sortent. Ce qui fait qu'il y a 20% de plus de personnes à l'aide sociale en 2 ans.
Vous œuvrez sur le terrain. Quelles sont les situations malheureusement typiques auxquelles vous êtes confrontés?
On œuvre sur plusieurs terrains. Alors, ce que je peux dire, c'est les fameuses situations des familles monoparentales qui, une sur deux, quand on leur dit est-ce que vous pouvez assumer une dépense surprise de 2 500 francs, en Suisse, une famille monoparentale sur deux dit non, je ne peux pas. Nous, on a affaire à ces situations-là. De personnes seules ou de familles monoparentales qui ont tout à coup la machine à laver qui casse. Il faut la remplacer, je ne peux pas. Je dois aller chez le dentiste, je ne peux pas me payer le dentiste. Voilà, tout à coup, il y a une. J'ai évidemment pris une caisse maladie avec la franchise maximale, parce que quand on a de la peine de journée, on prend ce genre de risque en espérant que ça va passer. Et quand ça passe pas, ben, il y a 2000 francs de frais médicaux. On a beaucoup à faire à ce genre de situation. Des gens endettés aussi, qui, quand vous passez d'un travail au chômage, vous avez quand même tout à coup 20% de revenus en moins. Vous pouvez faire l'exercice pour vous. Par rapport aux engagements que vous avez pris, vous vous retrouvez vite au niveau de l'aide sociale. Et puis sur un autre plan, on a des ateliers d'insertion, on essaye quand même de travailler à améliorer l'employabilité des personnes qui sont éloignées du marché du travail.
Si on lit le compte-rendu de cette conférence nationale au sujet de la pauvreté qui a eu lieu cette semaine à Bienne, il est dit on doit lutter contre la pauvreté, certes, mais encore mieux, c'est de prévenir l'apparition de ce phénomène. Comment on prévient l'apparition de ce phénomène? En tout cas, vous, à Caritas Jura, est-ce que vous avez quelques outils, vous avez quelques mesures?
Je pense qu'on a une étape préalable. C'est on doit lutter contre la pauvreté et pas contre les pauvres. Et on est en train de mettre en place des choses où on lutte contre les pauvres et pas contre la pauvreté. Donc si on pouvait déjà aborder la question de la pauvreté et pas dire il y a des pauvres dont on suppose qu'ils sont des abuseurs potentiels et ils ont intérêt de nous prouver que c'est des bons pauvres, on est en train de lutter contre les pauvres et pas contre la pauvreté alors. Si on prend des mesures contre la pauvreté, on va déjà monter d'un cran, ce sera pas mal. Et puis dans la prévention, ben on est dans ce qu'on était avant, dans le débat d'avant. Ça veut dire qu'il faut de la formation, il faut absolument qu'on amène les jeunes le plus possible avec une formation pour qu'ils puissent se projeter dans la société qu'on est en train de construire. Et ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose qui va bientôt être dans le canton du Jura, c'est les prestations complémentaires pour les familles. On a la question du salaire minimum. Ces choses-là sont des mesures préventives, mais elles ont un coût. Et dans la situation actuelle, on sait que c'est un investissement qui est difficile à faire avec le frein à l'endettement.
La Conférence nationale contre la pauvreté, toujours elle, a permis la signature d'une déclaration entre confédérations, cantons, communes, un texte non contraignant. Alors il s'agit de favoriser des mesures d'insertion professionnelle, de formation, c'est le nerf de la guerre apparemment, mais non contraignant. Est-ce que les collectivités publiques qui sont conscientes de cette problématique prennent assez le taureau par les cornes?
Je pourrais faire une image, c'est comme la lutte contre le climat. On peut toujours avoir plein de bonnes intentions, puis quand il faut ouvrir la bourse et donner les moyens, on se rend compte que nos intentions sont limitées. Mais on aurait vraiment besoin d'aborder ce problème, parce que c'est une bombe à retardement. Parce que ces personnes-là sont vraiment victimes, et on les regarde comme des coupables. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore très taiseux, je veux dire, voilà, les gens subissent, calmement, et on devrait faire attention parce qu'on aura vraiment une société à deux vitesses et la cohésion sociale sera vraiment mise à mal.
Jean-Noël Maillard, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans Place Publique. On le rappelle, vous dirigez Caritas Jura. Bonne soirée et bon week-end.
Merci à vous aussi.
Place Publique.
La Suisse n'est pas épargnée par le phénomène de l'extrémisme religieux. Il y a la fermeture annoncée de la mosquée de Winterthur après qu'un imam a appelé ses fidèles au meurtre des non-pratiquants. De son côté, la mosquée de Genève, et on vient de l'apprendre par nos confrères de la RTS, renonce à faire venir un imam controversé qui officie actuellement à Zurich. Et on l'apprend encore aujourd'hui, le ministère public de la Confédération mène 70 procédures liées à la radicalisation islamiste. Une enquête vise même les dirigeants du Conseil central islamique suisse, dont Nicolas Blanchot. Le président de cette organisation et son porte-parole sont soupçonnés d'avoir fait la propagande des activités d'Al-Qaïda via un film diffusé sur les réseaux sociaux. Voilà pour le décor, voilà pour la répression. Mais il faut aussi parler de la prévention. Plusieurs initiatives sont en gestation, en préparation, notamment à Bienne. Alors avant d'en parler, avant de recevoir notre invité, il est temps de vous accueillir, Jérôme Moutet. Bonsoir.
Oui, bonsoir Gabriel.
Bonsoir. La radicalisation islamiste, alors une question qui ne prête pas forcément à rire. Et pourtant,
Eh oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Enfin, s'il y a quelqu'un qui nous écoute. Encore merci pour le sujet, hein, c'est cool. Faire une chronique d'humour avec la prévention de la radicalisation de l'islam, c'est cool. Encore merci, Gabriel, je vous ferai un cadeau à Noël. Je vous adore. Surtout que vous venez d'énumérer tous les points négatifs. Et après, paf, démerde-toi Jérôme, t'as qu'à être drôle. Eh ben, c'est comme le foot à la Tissot Arena, ce sera pas gagné. Et là, pendant 2 minutes, ce sera comme un match de Fribourg-Gotteron, hyper chiant. Mais vous l'avez voulu, alors faut assumer, monsieur Devecq. Vous avez quelque chose à dire ?
Vous êtes allé à la patinoire de Fribourg ?
Oui, évidemment, pas avec le pull de Fribourg. mais vous êtes plus tout à fait le même depuis que monsieur Maillard vous a fait imaginer votre salaire moins 20%. Là, ça va moins bien, hein. Ça fait mal, ça.
Si vous continuez, c'est ce qui risque d'arriver.
Oui, pour moi aussi, mais moi c'est 100. Franchement, Gabriel, mais je vous ai fait quoi ? Je ne vous aime pas trop, monsieur Devecq. Mais bien sûr que si. Quand vous êtes en vacances. Bon, déjà, la prévention de la radicalisation de l'islam, c'est super dur à dire, mais paraît-il, c'est pour détecter les comportements à risque. Alors, une chose est sûre, ce concept n'est pas appliqué à nos radios, car s'il fallait virer les comportements à risque, ben, je ne serais pas en face de vous. Bon, aux étangs, j'ai pas mis de ceinture aujourd'hui, mais faire rire avec un thème pareil. Alors, on peut essayer, pas de souci, mais alors, on garantit pas le résultat. C'est un peu comme la branlette dans les maisons de retraite. On veut bien essayer, mais on sait pas trop ce qui va sortir. Ça vous parle, hein, Gabriel? De toute façon, même si ça leur parle à cet âge-là, ils entendent rien à cause du sonotone qui est mal réglé. Donc, revenons à nos moutons, et pas pour faire un méchou. Faire rire avec la prévention de la radicalisation de l'islam, vous m'y reprendrez à accepter des chroniques pareilles. C'est comme faire rigoler avec un thème du style « pour ou contre le port du voile ». Ah, bah tiens, déjà que je croyais que celle qui avait le voile n'aimait pas le porc, voilà que tout est remis en cause.
Mais vous le dites très bien, radicalisation.
Oui, laissez-moi finir, sinon vous êtes viré. Puis les 20%, c'est pour moi. Faire rire avec un thème comme ça, c'est comme dire que le budget du canton de Neuchâtel est bénéficiaire. Tout le monde l'attend, mais personne n'y croit. Et quand on hérite d'un sujet comme celui-là, on se sent comme un neurone dans le cerveau de Nabila, bien seul. Mais heureusement, vous êtes là, Gabriel Devecq. Vous ne me servez à rien, mais vous êtes là et je ne l'oublierai pas. Bon, on va quand même aborder le thème de la chronique, puisque je suis là pour ça.
Ah, s'il vous plaît.
Je suis même payé pour ça, c'est ça qui est dingue. Peut-être la dernière fois. Là aussi, ce sera radical, car je terminerai avec une citation de Werner Stauffacher, bien connu des Suisses depuis 1291. « Si le radical mange un fruit rempli de petits grains rubis au goût à la fois sucré et acidulé, ça s'appelle une grenade, mais vu le thème, pas certain que ça aille mieux. »
Merci Jérôme Moutet, merci d'avoir été dans Place Publique pour vous attaquer à ce thème, c'est vrai, délicat. On se réjouit de vous retrouver le vendredi soir pour d'autres chroniques. Et avec nous pour en parler, André Glauser, parler de prévention contre la radicalisation de l'islam. André Glauser, vous êtes le chef de la sécurité publique de la ville de Bienne, bonsoir.
Bonsoir.
Alors on va parler des mesures de prévention sur lesquelles vous travaillez, mais avant cela, Nicolas Blanchot, visé par une enquête du ministère public de la Confédération pour propagande terroriste, votre réaction ?
Oui, je pense qu'il est intelligent de regarder là où il y a des soupçons qui vont dans une direction de la radicalisation, pas seulement à l'étranger, où ça se fait déjà depuis pas mal de temps, mais entre-temps aussi en Suisse, et ça, je trouve une bonne chose.
Nicolas Blanchot, qui a fréquenté une mosquée de Bienne, la même mosquée prônant un islam rigoriste que le jeune djihadiste parti en Somalie a fréquenté, est-ce que Bienne abrite encore un terreau de radicalisation ?
Je dirais que Bienne n'abrite pas un terreau plus que les autres villes qui sont dans des situations similaires que nous, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de centres culturels islamiques qui portent bien évidemment ce risque-là. Mais nous, on n'est pas seuls, les autres villes sont concernées, la même chose.
Si vous êtes là, c'est que depuis le mois de février, vous menez donc un groupe de travail à Bienne qui veut améliorer la prévention. Pour qu'on y voit clair, sur quel type de mesures vous êtes en train de travailler, par exemple ?
Oui, je pense qu'il est très important de voir le rôle des villes et des communes, surtout des villes. Il y a la Confédération, les cantons et les communes qui ont leur rôle à jouer. En ce qui concerne les villes, c'est surtout la prévention qui est en premier lieu, parce que les villes, les communes n'ont pas de compétences dans le domaine juridique, dans le domaine de la répression. Nous, on se concentre spécialement, comme ça a déjà été dit, en ce qui concerne le comportement à risque. Donc nous, ce qu'on veut découvrir, c'est des gens qui ont un comportement à risque qui est visible. Et suite à s'apercevoir ce comportement, aussi les communes, les villes peuvent commencer à prendre des mesures justement pour éviter qu'il y ait des choses graves qui se passent.
Alors, vous travaillez avec les services de l'administration biennoise pour trouver justement ces mesures. On parle de quel genre de service et de quel genre de prestations qui vous permettraient d'être plus au contact avec, par exemple, les centres culturels islamiques, avec les musulmans, qui vous permettraient d'avoir un regard sur le terrain?
C'est surtout les services qui sont en contact régulier avec la problématique. Ça veut dire les écoles, le service de l'intégration, la protection des enfants et des adultes, les services de police communaux, mais aussi la police cantonale qui est bien sûr aussi touchée par le phénomène.
Et quel genre de mesures manquent maintenant, puisque vous réfléchissez à être beaucoup plus en prévention? Quel genre de clés vous avez à disposition après plusieurs mois de travail, hein? Ça fait depuis le mois de février que ce groupe de travail existe.
Tout à fait. On s'est aperçu qu'il y a un grand manque d'échanges d'informations entre les différents services. Donc il y a beaucoup de savoir, mais il y a souvent pas les services concernés qui sont en possession des informations nécessaires. Ça veut dire que là, nous avons constaté un déficit auquel il faut faire quelque chose.
On parle souvent des jeunes djihadistes. C'est la jeunesse qui est principalement visée par vos services?
Mais il y a un certain risque en ce qui concerne les gens qui sont plutôt d'un âge inférieur. C'est surtout là où il y a encore une grande possibilité de les influencer. Ils ont encore l'esprit ouvert. Ils sont vite là et ils sont vite feu et flamme pour une idée à la limite. Peut-être qu'ils cherchent encore un petit peu la direction que doit prendre leur vie. Donc ils sont aussi assez vulnérables pour ce genre d'idée de radicalisation. Alors bien sûr que oui, il y a une certaine focalisation aussi sur les jeunes personnes.
On dit que la radicalisation s'opère plutôt derrière un écran, à l'abri des regards, qu'au grand jour. Il y a aussi pour la surveillance ou la répression des moyens importants qui sont déployés par la Confédération. Vous-même, est-ce que vous avez vraiment les moyens, avec toute la bonne volonté qui est la vôtre, d'apporter une pierre à l'édifice de la prévention?
Oui, je suis persuadé que oui, puisque nous avons un certain nombre de collaborateurs qui sont confrontés tous les jours à des personnes, soi-disant des personnes de risque. Je parle des services de police des étrangers, les services de migration, les services de police qui s'occupent justement des autorisations pour des manifestations, des autorisations dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, qui ont beaucoup d'informations qu'ils peuvent transmettre et qui sont dans le terrain puis qui voient les choses comme ils bougent.
Et ces informations, vous les transmettez plus haut aux services concernés? Qu'est-ce que vous en faites de ces informations qui remontent du terrain, vous, la ville de Bienne?
Ben, les informations, le but c'est que ces informations soit mis sur une table, soit analysé, et puis ensuite jugé. Est-ce que, suite à ces informations qu'on a maintenant, est-ce qu'on doit faire quelque chose? Là, bien sûr, ça peut concerner la police. Ensuite, elle fait son travail. La police transmet peut-être plus loin au service de renseignement. Il y a quand même une certaine hiérarchie à respecter. Mais il se peut aussi qu'à l'intérieur de la ville, à l'intérieur de la commune, il y a des mesures qui puissent se faire. Si on voit par exemple qu'une personne ne s'intègre pas volontairement et qu'elle fait de l'obstruction dans ce sens-là, il y a aussi des mesures à disposition, par exemple les conventions d'intégration qu'on peut faire et toutes sortes de mesures aussi au niveau communal qu'on peut prendre en considération.
Il faut aller vite, hein. Le phénomène se joue maintenant, il n'a même pas attendu la création de votre groupe de travail pour avoir lieu, y compris à Bienne. Quand est-ce que votre plan sera opérationnel?
On travaille sur un certain nombre de mesures, il y a déjà l'une ou l'autre mesure qui est très concrète, qui sera mise en œuvre dès le début de l'année prochaine, et dans le courant du premier trimestre de l'année prochaine, on s'attaquera une après l'autre aux mesures qui sont sur notre liste pour arriver à la fin de l'année à un programme complet mis en œuvre qui pourra être opérationnel dans la suite.
La communauté musulmane de Bienné, on en termine avec ça, ne reste pas les bras croisés. On découvrait cette semaine une initiative lancée par plusieurs de ses membres pour prévenir la radicalisation dans les écoles, les mosquées et dans les centres de jeunes. Un projet qui vous sera présenté. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous et est-ce que c'est de votre devoir d'accompagner ce genre d'initiative pour éviter par exemple que des cas soient passés sous silence et gérés par la communauté elle-même?
Je pense que c'est en premier lieu les centres islamiques, les mosquées qui ont un intérêt à faire quelque chose contre des tendances de radicalisation chez eux, entre les murs de ces centres culturels. Nous, bien sûr, on doit tout faire pour soutenir les centres culturels dans ces démarches. On doit aussi apporter notre aide, notre soutien dans la mesure du possible. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit dans les centres culturels que la ville, que les autorités s'intéressent à ce qui se passe à l'intérieur de leurs murs et qu'il y ait ensuite un dialogue entre les institutions et les autorités qui va dans la bonne direction.
André Glauser, chef de la sécurité publique de la ville de Bienne, merci d'avoir été dans Place Publique pour nous parler de ces mesures qui sont encore en travaux et qui devraient entrer en force tout bientôt. On vous souhaite bien entendu plein succès dans cette démarche et on vous dit à bientôt.
Merci beaucoup, une bonne soirée, au revoir.
Bonne soirée.
Place Publique.
C'est tout pour Place Publique. Vous retrouvez l'intégralité de cette émission tout à l'heure sur nos sites internet rjb.rtnrfj.ch. On vous souhaite évidemment un excellent week-end et on vous dit à la semaine prochaine.
Place Publique.